Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, les premiers mots de l'introïte de la messe du Sacré-Cœur, Cogitationes Candis Eius, les pensées de son cœur demeurent de génération en génération pour délivrer leurs âmes de la mort et les nourrir pendant la famine. Et s'il y a une famine aujourd'hui qui excite la compassion du Sacré-Cœur, c'est bien celle des enfants de France qui demandent qu'on les nourrisse de vérité et de vertu et qui ne reçoivent dans les écoles laïques ou modernistes la plupart du temps que de la nourriture avariée, pour ne pas dire du poison. Mais nous-mêmes, faisons-nous notre devoir pour nourrir ces jeunes âmes? À l'occasion de la fin de l'année scolaire, je vous propose de faire aujourd'hui un examen de conscience de l'année écoulée, et je m'adresserai plus particulièrement aux éducateurs, aux parents, aux maîtres et maîtresses, aux pères et aux frères du couvent. Pour faire cet examen de conscience, nous allons nous servir de l'encyclique du pape Pie XI, Divini Ilius Magistri, sur l'éducation chrétienne de la jeunesse, écrite en 1929, il y a 89 ans. Et nous nous intéresserons plus particulièrement à ce que le pape appelle le milieu de l'éducation. Pour assurer la perfection de l'éducation, dit-il, il importe souverainement que tout ce qui entoure l'enfant durant la période de sa formation, c'est-à-dire cet ensemble de conditions extérieures que l'on appelle ordinairement le milieu, soit en parfaite harmonie avec le but proposé. Ce milieu, dit le pape, est triple: la famille, l'Église et l'école. Le premier milieu de l'éducation est la famille. Le pape insiste sur l'importance de l'ordre et de la discipline de la famille et sur les bons exemples. Le premier milieu naturel et nécessaire de l'éducation, dit-il, est la famille, précisément destinée à cette fin par le Créateur. Par conséquent, l'éducation la plus efficace et la plus durable sera celle qui sera reçue dans une famille chrétienne bien ordonnée et bien disciplinée. Et son efficacité sera d'autant plus grande qu'y brilleront plus clairement et plus constamment les bons exemples, surtout des parents, puis des autres membres de la famille. Ne voulant pas entrer dans les détails de l'éducation domestique, le pape renvoie aux ouvrages qui exposent la doctrine catholique sur ce sujet. Parmi eux, dit-il, nous apparaît digne d'une mention particulière le livre d'or d'Antoniano, intitulé « De l'éducation chrétienne des enfants », livre que saint Charles Borromée faisait lire publiquement aux parents rassemblés dans les églises. Voilà une première question à nous poser. Avons-nous lu, la plume à la main, ce livre d'or? Mettons-nous en pratique ce que dit le cardinal Antoniano. Toujours sur l'éducation familiale, le pape attire l'attention sur la lamentable décadence de l'éducation familiale à son époque. Nous sommes en 1929. Et en quoi consiste cette lamentable décadence? Tout ce qui regarde l'emploi, la profession de la vie temporelle et terrestre, chose certainement de moindre importance, se voit précédé de longues études et d'une préparation soignée. Tandis qu'au devoir fondamental de l'éducation des enfants, beaucoup de parents, aujourd'hui, sont peu ou pas du tout préparés, plongés qu'ils sont dans leurs soucis temporels. On pourrait ajouter trois générations après le pape Pie XI que les parents actuels, sauf exception, ont encore moins reçu et donc sont encore moins préparés au devoir fondamental de l'éducation que Saint Grégoire de Nazianze appelle l'art des arts et la science des sciences. Le pape termine ce passage sur le premier milieu de l'éducation en exhortant les pasteurs. Nous conjurons, par les entrailles de Jésus-Christ, les pasteurs des âmes, de mettre tout en œuvre dans les instructions et les catéchismes, par la parole et les écrits largement répandus, pour rappeler aux parents chrétiens leurs très graves obligations. Que ce rappel se fasse moins par des considérations théoriques ou générales que par un enseignement pratique et détaillé de chacun des devoirs qui ont trait à l'éducation religieuse, morale et civique de leurs enfants, leur signalant les méthodes les plus propres à réaliser efficacement cette éducation, en plus du bon exemple de leur propre vie. Cette fois-ci, c'est à nous à faire notre examen de conscience. Faisons-nous assez pour rappeler aux parents chrétiens leurs très graves obligations? Ne faudrait-il pas que nous reprenions les conférences que nous faisions il y a quelques années? Priez pour nous afin que nous prenions de bonnes décisions à la rentrée et n'hésitez pas à nous soumettre vos idées et suggestions. Puis le pape passe au deuxième milieu de l'éducation. L'Église, dit-il, cette grande famille du Christ, qui pour cette raison est le milieu éducateur le plus étroitement et le plus harmonieusement uni à celui de la famille chrétienne. En effet, le but de l'éducation est de concourir à l'action de la grâce divine dans la formation du véritable et parfait chrétien. Il n'est donc pas étonnant que l'Église, qui est dispensatrice de la grâce, ait un rôle si important dans l'éducation. Et comment éduque-t-elle? Par les sacrements, par la liturgie, par l'art chrétien et par ses œuvres d'éducation. Citons le pape. Ce milieu éducateur de l'Église ne s'entend pas seulement de ses sacrements divinement institués pour donner la grâce, de ses rites tous merveilleusement éducatifs, ni même de l'enceinte matérielle du temple chrétien, lui aussi si admirablement formateur par le langage de sa liturgie et de son art, mais encore de l'abondance et de la variété de ses écoles, associations et institutions de tout genre qui ont pour but de former la jeunesse à la piété en y joignant l'étude des lettres et des sciences, sans oublier les délassements et la culture physique. Dans cette inépuisable fécondité d'œuvres éducatives se montre l'admirable, en même temps qu'incomparable, providence maternelle de l'Église. Et non moins admirable est l'harmonie dont nous venons de parler, qu'elle sait maintenir avec la famille chrétienne. Si bien que l'on peut dire en toute vérité que l'Église et la famille constituent un temple unique de l'éducation chrétienne. L'Église et la famille constituent un temple unique de l'éducation chrétienne. Cette considération du pape serait à garder en mémoire pour un exposé qui serait à faire, mais ce n'est pas le cas ici, pour répondre à la question « À quel âge un enfant peut-il commencer à s'éloigner de sa famille, notamment à cause de la pension ?» Mais passons au troisième milieu de l'éducation, l'école. Cette institution est apparue du fait, dit le pape, que la famille est incapable par elle-même de pourvoir suffisamment à l'instruction dans les arts et les sciences. Mais qu'on le remarque bien, dit-il, ceci se fit d'abord par l'initiative de la famille et de l'Église, bien avant l'intervention de l'État. À ne considérer donc que ses origines historiques, l'école est de sa nature une institution auxiliaire et complémentaire de la famille et de l'Église. Partant, en vertu d'une nécessité logique et morale, l'école doit non seulement ne pas se mettre en contradiction, mais s'harmoniser positivement avec les deux autres milieux, dans l'unité morale la plus parfaite possible, de façon à constituer avec la famille et l'Église un seul sanctuaire consacré à l'éducation chrétienne. Faute de quoi, elle manquera sa fin pour se transformer au contraire en œuvre de destruction. Et le pape de conclure avec cette formule lapidaire, l'école, si elle n'est pas un temple, devient une tanière. De là, continue le pape, il ressort nécessairement que l'école, dit neutre ou laïque, d'où est exclue la religion, est contraire au premier principe de l'éducation. Une école de ce genre est d'ailleurs pratiquement irréalisable, car en fait, elle devient irreligieuse. D'où la conclusion que devraient connaître tous les parents chrétiens. La fréquentation des écoles non catholiques ou neutres ou mixtes, à savoir celles qui s'ouvrent indifféremment aux catholiques et non catholiques sans distinction, doit être interdite aux enfants catholiques. Elle ne peut être tolérée qu'au jugement de l'ordinaire, dans des circonstances bien déterminées de temps et de lieu, et sous de spéciales garanties. Et le pape précise, le seul fait qu'il s'y donne une instruction religieuse, souvent avec trop de parcimonie, ne suffit pas pour qu'une école puisse être jugée conforme aux droits de l'Église et de la famille chrétienne, et digne d'être fréquentée par des enfants catholiques. Pour cette conformité, il est nécessaire que tout l'enseignement, toute l'ordonnance de l'école, personnel, programmes et livres, en tout genre de discipline, soit régi par un esprit vraiment chrétien, sous la direction et la maternelle vigilance de l'Église, de telle façon que la religion soit le fondement et le couronnement de tout l'enseignement à tous les degrés, non seulement élémentaire, mais moyen et supérieur. Et le pape rappelle qu'il s'agit là d'une liberté élémentaire. C'est une des dernières libertés qui nous reste et, comme vous le savez, elle est bien menacée aujourd'hui. Là où cette liberté élémentaire est empêchée, continue le pape, ou contrecarrée de différentes manières, les catholiques ne s'emploieront jamais assez, fût-ce au prix des plus grands sacrifices, à soutenir et à défendre leurs écoles, comme à obtenir des lois justes en matière d'enseignement. Remarquons que le pape parle de défendre l'école catholique. Il ne parle pas d'école libre. Et il voit dans cette défense un devoir religieux. Qu'il soit donc proclamé hautement, dit-il, qu'il soit bien entendu et reconnu par tous que, en procurant l'école catholique à leurs enfants, les catholiques de n'importe quelle nation ne font nullement œuvre politique de parti, mais œuvre religieuse indispensable à la paix de leur conscience. Ce qui n'empêche pas que l'école catholique soit aussi utile à la patrie. Un bon catholique, dit en effet le pape, en vertu même de la doctrine catholique, est le meilleur des citoyens, attaché à sa patrie, loyalement soumis à l'autorité civile établie sous n'importe quelle forme légitime de gouvernement. Après les considérations générales sur l'école, le pape entre dans certaines considérations plus particulières concernant les matières à étudier, les maîtres qui doivent enseigner, les enfants qui reçoivent l'enseignement, spécialement les adolescents. Lisons quelques lignes concernant ces derniers. Il est nécessaire de diriger et de surveiller l'éducation de l'adolescent, car son âme, pour se plier au vice, est molle comme la cire. En quelque milieu qu'il se trouve, que l'on écarte de lui les occasions dangereuses et qu'on lui procure opportunément celles du bien, dans ses divertissements comme dans ses fréquentations, car les mauvais entretiens corrompent les bonnes mœurs, dit saint Paul. Et le pape entre dans certains détails. La vigilance à notre époque, 1929, doit être d'autant plus étendue et plus active que les occasions de naufrage moral ou religieux se sont accrues pour la jeunesse sans expérience. Notons spécialement les livres impies et licencieux, dont beaucoup, par une tactique diabolique, sont répandus à vil prix. Les spectacles du cinéma et maintenant aussi des auditions à la radio, celles-ci multipliant et facilitant, pour ainsi dire, toutes sortes de lectures, comme le cinéma, toutes sortes de spectacles. Ces moyens de diffusion ne sont que trop souvent subordonnés à l'excitation des passions mauvaises. Aujourd'hui, le diable a bien perfectionné sa tactique et il utilise des moyens de diffusion et de perversion bien plus néfastes. Chers parents, soyez vigilants. Les âmes de vos enfants sont en péril. Vous mettez, je suppose, chez vous la pharmacie sous clé pour que les enfants ne prennent pas indistinctement et imprudemment des médicaments. Mettez bien l'Internet sous clé et sous une clé physique. Conclusion. Pour vous, soutenez les écoles catholiques. Mettez-y vos enfants. Travaillez en parfaite harmonie avec les éducateurs des deux autres milieux, de l'école, de l'Église. Assurez la part d'éducation qui vous revient. Pour nous, tâchons de nous améliorer et remplissons notre rôle de vous enseigner. Que Notre-Dame, mère et éducatrice de tous les chrétiens, nous aide à voir notre devoir et à l'accomplir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.